L'ULB a accueilli le vendredi 9 octobre la conférence « L'écologie entre politique et spiritualité » animée par Mohamed Taleb. Le philosophe algérien a présenté sa vision de l'écologie et des possibilités d'ouverture à la spiritualité, en se basant notamment sur des exemples de militance écologique issus des quatre coins du monde. La conférence était organisée par le Centre d'animation et de recherche en écologie politique Ethiopia, la SBL Tetra et la Maison du développement durable.
D'abord, une chose qui me semble importante à dire, c'est que lorsqu'on parle de ces dialogues, de ces convergences entre écologie et spiritualité, alors bien évidemment, il faut s'entendre sur les mots. Qu'est-ce que j'entends par écologie et qu'est-ce que j'entends par spiritualité? Mais avant de vous donner des définitions qui ne viendront certainement pas, il s'agit d'abord de répondre à deux questions. Et lorsqu'on a donné les réponses à ces deux questions, eh bien, comme les deux pôles de la planète, il y a un système qui va se nouer. La première question, c'est qu'est-ce qui, dans la spiritualité, quelle que soit la façon dont on l'envisage, peut entrer en dialogue avec l'écologie? Et puis, inversement, qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'écologie, peut entrer en convergence, en dialogue avec la spiritualité? Et lorsqu'on a répondu à ces deux questions, on a un espace qui n'est pas totalement l'écologie traditionnelle, qui n'est pas non plus la spiritualité à laquelle on peut être habitué, qui est un champ, alors, qui est à la fois assez nouveau, et donc j'essaierai de montrer qu'il a une profondeur historique. Ce champ, c'est celui de l'éco-spiritualité, c'est la formule qu'on utilise depuis maintenant une vingtaine d'années, qui n'est pas l'écologie et qui n'est pas non plus la spiritualité. On est en Belgique, on est en Europe, donc on est dans des traditions, on est dans des pays de traditions intellectuelles et sociopolitiques qui sont marquées depuis 200 ans par la laïcité et par d'intenses affrontements entre, je caricature, la sphère de la laïcité et la sphère du religieux. Donc les luttes anticléricales qui remontent en partie au XIXe siècle ou bien les luttes conservatrices religieuses ont été pendant donc une bonne période le fond culturel, le fond idéologique, pas simplement de la Belgique, mais de l'ensemble du continent européen. Donc évoquer un rapport entre écologie et spiritualité n'a pas d'évidence. Et je conçois tout à fait qu'on puisse, du point de vue de l'écologie, se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette intrusion spiritualiste ou religieuse dans l'écologie qui concerne normalement le bien commun. » Maintenant, si on se place non pas du point de vue de l'histoire récente du monde occidental, mais du point de vue de l'histoire de l'humanité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, eh bien, on s'aperçoit que dans une approche véritablement humaniste, notamment en s'appuyant sur les expériences de l'Asie, de l'Afrique, et de cette Amérique latino-afro-indienne, on s'aperçoit qu'entre l'écologie et la spiritualité, on a un continuum. Il y a un an, j'ai fait paraître un livre qui s'appelle « L'écologie vue du Sud ». Dans ce livre, j'ai voulu explorer les grands mouvements d'écologie, donc en Afrique noire, dans le monde arabe, en Asie, en Inde et puis au Brésil. Et je me suis questionné, j'ai essayé d'interroger les différences avec l'écologie du Nord. Et en faisant cette double exploration, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes différences. La première différence, il faut revenir à Marx, une différence de classe. Une différence de classe au Nord, dans le monde occidental, l'écologie, massivement, est une histoire de classe moyenne aisée. C'est-à-dire de groupes socio-économiques qui ont résolu la question alimentaire, la question des conditions de vie, la question du pouvoir d'achat, tout ce que l'on veut, et qui peuvent se permettre, par exemple, la consommation bio. Les couches populaires, dans les sociétés occidentales, sont sur l'espace de l'écologie à mille lieues. Il suffit de voir les comportements alimentaires. La malbouffe concerne non pas les classes moyennes aisées, qui mangent bio, mais d'abord les couches populaires, les gens qui vivent dans les quartiers. Première différence. Quand vous allez au Brésil, quand vous allez en Inde, au Kerala, quand vous allez au Burkina Faso, quand vous allez dans ces contrées du Sud, l'écologie est d'abord une histoire de classe sociale, paysanne ou bien prolétarienne agricole. Ce sont d'abord les sans-terres, ce sont d'abord les dépossédés, ce sont d'abord les sans-droits qui sont le fer de lance des combats écologiques, pour une raison évidente, c'est qu'ils vivent dans leur quotidien, dans leur présent, le drame environnemental. Donc une première grande différence, différence de classe sociale, l'écologie au nord, ce sont les classes moyennes aisées, massivement, l'écologie au sud, ce sont les classes populaires. Deuxième différence, tout aussi importante que la première, et en fait c'est une deuxième différence qui est imbriquée dans la première, c'est une différence dans la représentation que l'on a de la nature et de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que l'environnement? Et donc, qu'est-ce que c'est que l'écologie qui est censée répondre au drame environnemental? Je prendrai un exemple. Au nord, lorsqu'il y a un problème écologique, local ou global, on fait d'abord, je dirais presque uniquement, mais on fait d'abord appel à une figure qui est l'expert. C'est-à-dire que l'analyse rationnelle et scientifique est considérée au Nord comme le lieu par excellence où on peut penser l'écologie, à la fois la crise et le dépassement de la crise. Dans les pays du Sud, lorsque localement vous avez un problème, on ne fait pas d'abord appel à l'expert, on fait d'abord appel au griot, au médecin, au medicine man, au chaman, au poète comme figure générale. La figure du poète dans les dynamiques de l'écologie du Sud et la figure de l'expert dans les dynamiques de l'écologie du Nord montrent bien une différence de conception et de vision du monde. L'une des raisons, c'est que la représentation qu'ils ont de l'environnement n'est pas la même. Je prendrai un exemple. En Inde, notamment dans les États de l'Est de l'Inde, jusqu'au Bengale au Nord-Est, vous avez un groupe de population qu'on appelle les Adivasis. Les Adivasis, ce sont les peuples autochtones de l'Inde. Hein, ce sont les populations les plus archaïques en Inde. Ils sont à peu près 100 millions d'hommes et femmes. Ils font partie, bien évidemment, des couches de la population les plus méprisées, notamment par les politiques de développement que l'Inde connaît depuis les années 60. Les Adivasis sont parmi l'un des principaux fers de lance des luttes écologiques, notamment contre les multinationales extractivistes. Vous entendez le mot extraction, extraire. Extraire quoi? Le minerai de la montagne. Pourquoi? Pour nos appareils. Les moyens techniques, les objets matériels de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication nécessitent des minerais qui sont enfouis dans les montagnes, principalement du Sud, le Congo, le Niger, l'Inde et quelques contrées comme ça. Mais donc, ce qui fait qu'on a les Adivasis qui s'opposent précisément à la dépossession physique de leur territoire par les multinationales, qu'elles soient belges, françaises, suisses, indiennes, japonaises ou coréennes. Mais lorsqu'on discute avec les Adivasis et lorsqu'on leur pose la question de « Pourquoi vous vous mobilisez contre les multinationales ?» Donc, quelle est la racine, en quelque sorte, de votre militance écologiste? Eh bien, ils vont vous répondre, la plupart du temps, que ce n'est pas pour des raisons d'égalité salariale, de partage des richesses. Ce n'est même pas pour des histoires étroitement naturalistes de défense de la biodiversité, de la faune et de la flore. Alors, on dit, mais pour quelle raison alors? Ben parce que dans cette montagne, il y a une déesse et que l'extraction par la machine, les bulldozers, l'extraction du minerai font que précisément la déesse de la montagne quitte les lieux. La montagne, elle est dévitalisée culturellement et spirituellement dans leur approche de la nature vivante. Au nord, l'environnement, qu'est-ce que c'est? Et ce qui est dramatique, qu'est-ce que c'est pour les écologistes? C'est qu'ils ont la même représentation que les multinationales. Il y a un consensus au Nord concernant la nature et l'environnement. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un stock de matière, un stock de ressources. Il ne peut pas y avoir de parenté sensible, il ne peut pas y avoir d'amitié environnementale avec un tas de ressources. La nature vivante, l'environnement naturel, n'a pas le même contenu quand vous êtes en Occident ou dans les sociétés traditionnelles du Sud. C'est le désenchantement du monde dont Max Weber a dit qu'il était l'un des paramètres les plus importants du capitalisme. Le désenchantement du monde. Le monde occidental est un univers désenchanté. C'est-à-dire que le réel se réduit au matériel. Pire que ça, le matériel se réduit à l'économique, et avec la néolibéralisation, l'économique se réduit au financier. On est vraiment dans le réductionnisme le plus plat. Il est évident que dans une société qui se fonde sur le désenchantement du monde, c'est-à-dire sur la rupture d'une parenté qualitative avec la nature vivante, il est évident que lorsqu'on décide d'être écologiste sur fond de désenchantement, eh bien l'approche sera gestionnaire, physicaliste, naturaliste, étroitement naturaliste. Autre exemple, en changeant de continent, l'Amazonie. Pourquoi est-ce qu'il faut sauver l'Amazonie ? Eh bien, l'essentiel du discours écologiste au Nord, c'est de nous dire qu'il faut protéger l'Amazonie parce que l'Amazonie, c'est une immense forêt, ce qui est totalement vrai, et c'est l'un des principaux moyens que la Terre nous offre pour résister au changement climatique, notamment aux gaz à effet de serre. On doit sauver l'Amazonie parce qu'on doit protéger la Terre du climat. Mais les populations qui vivent en Amazonie, elles n'ont absolument pas cette représentation de l'Amazonie. Pour eux, pour ces populations, pour elles, l'Amazonie n'est pas une réalité physicalo-végétaliste. C'est un immense jardin aménagé avec de l'humain, du minéral, du végétal, de l'animal et des esprits de la nature. La réduction de l'Amazonie à être une grande forêt vierge, alors qu'elle est aménagée depuis plusieurs milliers d'années, montre aussi la différence dans la représentation qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire maintenant qu'il n'y a pas dans la nature une dimension ressource. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas aussi besoin d'une écologie gestionnaire. Mais si la problématique ressource et si le rapport de gestion prennent toute la place dans le rapport écologique, on reste enserré, enfermé dans le cadre qui a généré la crise écologique. D'où l'importance, lorsqu'on parle d'humanité, d'humanisme, de coopération internationale, de mobilisation internationale pour l'écologie, d'intégrer la dimension culturelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du dialogue sur le terrain de la culture ? Entre les écologies du Nord et les écologies du Sud. Et là, ça suppose, pas nécessairement une confrontation, mais en tout cas une clarification des valeurs, au Nord et au Sud. Au Sud, vous avez un continuum organique entre le social, le politique, le culturel, le cultuel, le symbolique. Tout ça, ce sont les facettes d'une même réalité. Au Nord, vous avez une compartimentation. Et dès lors qu'on ose imaginer des tissages entre ces domaines, eh bien, on a parfois des réactions qui sont problématiques. Sur le dialogue écologie-spiritualité, on est largement en retard au Nord par rapport à ce qui peut se passer au Sud, pas simplement sur le plan concret, mais aussi sur le plan de la pensée. Alors, d'autres exemples qui sont intéressants par rapport à ces tissages. Dans les pays du Sud, notamment au Brésil, avec un mouvement en particulier dont je vais parler, qui est la principale organisation de militance éco-paysanne, vous avez une articulation entre trois grands chantiers, trois grandes batailles, qui ne sont pas pensés d'ailleurs comme trois chantiers différents, mais comme trois portes d'entrée dans un même champ de bataille. Moi, c'est ce que j'appelle les trois J. La justice écologique. Il ne peut pas y avoir, de futur soutenable ou durable pour la Terre et pour l'humanité s'il n'y a pas une réconciliation entre la sociosphère et la biosphère, entre l'humanité et l'environnement naturel. Justice environnementale, justice climatique, justice écologique au sens général du terme. Aux États-Unis, on parle d'éco-justice. Le deuxième champ de bataille qui est fondamentalement lié au premier, au Nord, on les a séparés, c'est la justice sociale. Il ne peut pas y avoir d'écologie à l'ombre d'une planète qui malmène ses classes populaires. À l'inverse, il ne peut pas y avoir de justice sociale à l'ombre d'une planète dont l'habitat est malmené lui-même. L'articulation entre justice sociale et justice écologique, hein, cette articulation, elle est axiale, elle est décisive dans les écologies du Sud. Au Nord, on a eu souvent des divorces entre les deux. Et c'est la même chose, moi je viens de France, c'est la même chose en France ou en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre, vous avez souvent des chantages mutuels entre les mouvements de la gauche ouvrière, syndicaliste et puis les mouvements écolos. Ah, vous allez fermer les usines parce qu'il y a des normes environnementales qu'il faut respecter. Oui, mais les salariés qui sont dedans. Au lieu de penser complémentairement, on pense encore contradictoirement. Alors qu'il y a eu, dans l'histoire de l'Europe industrielle, moderne, il y a eu des occasions historiques pour concilier justice sociale et justice écologique. Et en fait, à la fois du côté des écologistes et du côté des syndicats, il n'y a pas eu l'audace, il n'y a pas eu l'imagination sociale de tisser des liens. L'un des plus grands scandales sanitaires en Europe a été en même temps un scandale écologique, dont les premières victimes ont été la classe ouvrière. Les syndicats auraient pu faire de ce scandale un cheval de bataille ou les écologistes. Chacun avance, et encore timidement, c'est le scandale de l'amiante. Ben, je ne sais pas quel a été le degré d'intégration de l'approche à la fois écologique, sanitaire, et puis syndicale et ouvrière, mais en tout cas, en France, en Allemagne et en Angleterre, elle a été proche de zéro. Alors qu'autour de la bataille de l'amiante, on aurait pu faire converger à la fois de l'écologie, de la santé publique et du syndicalisme. On n'a pas eu ces tissages. Le troisième J, ce que je vous ai parlé de trois J, hein, donc justice sociale, justice écologique, le troisième J, c'est ce que moi j'appelle la justesse intérieure. C'est tout ce qui renvoie à la vie intérieure, à la subjectivité, à la vie de l'âme, si on veut. L'enjeu, c'est tout simplement de se dire, qu'est-ce que moi, dans ma subjectivité, dans mon histoire de vie, qu'est-ce que moi je peux apporter au bien commun, qu'il soit social ou écologique. Pas simplement, on inverse la question, c'est pas qu'est-ce que l'écologie peut faire pour moi, notamment pour mon bien-être, ou bien qu'est-ce que la justice sociale peut faire pour moi, pour mon confort matériel, mais qu'est-ce que moi je peux faire, quelle est ma contribution spécifique à la fois à la bataille sociale et à la bataille écologique. Faire vivre l'espace de la subjectivité. Ce mouvement au Brésil, dont la pratique militante repose sur ces trois prémices, qui réunit au Brésil 5 millions d'adhérents, c'est le MST. C'est le mouvement des paysans, des travailleurs, pas paysans, c'est le mouvement des travailleurs ruraux sans terre. C'est l'épine dorsale du mouvement éco-paysan au Brésil. Et au-delà du Brésil, c'est l'un des principaux mouvements de la principale internationale écologiste, qui est en même temps l'épine dorsale du mouvement contre la mondialisation néolibérale. C'est un mouvement qui regroupe à l'échelle de la planète 150 millions de personnes. C'est un mouvement qui s'appelle Via Campesina, le chemin paysan, ou la voie paysanne, qui réunit le mouvement des sans-terre au Brésil, mais des mouvements paysans de l'Inde, des Philippines, de France, du Pays Basque, du Mexique, de Palestine, du Burkina Faso. Ce qu'on ne sait pas, ou pas suffisamment, c'est que le mouvement des sans-terre au Brésil, il est né d'un courant populaire particulier qu'on appelle la théologie de la libération. Il provient de ce qu'on appelle, voilà, l'Église catholique des pauvres au Brésil et dans tout le continent sud-américain. La théologie de la libération, c'est-à-dire cette articulation entre l'Évangile et les mouvements de justice sociale dans les années 70-80, la théologie de la libération a été la principale matrice de l'écologie et elle a aussi été la matrice de ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste. Si vous enlevez la dimension spirituelle du Forum social mondial et de l'altermondialisme, le Forum social mondial et l'altermondialisme tombent et n'existent pas. Les racines spirituelles du renouveau des luttes sociales à partir de quand ? De 99. C'est la première rencontre internationale de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui venait juste de se créer en 95 et qui a réuni les chefs d'État, parce que l'OMC, c'est une organisation politique internationale, ce ne sont pas des chefs d'entreprise, ce sont des États, qui se réunit à Seattle. Seattle a été un échec pour l'OMC. Comme disait un militant des Philippines, Nicanor Perlas, ça a été le point de départ, sur le plan symbolique, 99, ça a été le point de départ, l'acte de naissance de ce qu'il appelle la société civile transnationale. 99, ça a été la première manifestation mondiale contre la mondialisation néolibérale, avec une convergence des mouvements paysans, des mouvements féministes, des mouvements théologie de la libération, des mouvements syndicaux aux États-Unis, des peuples autochtones, de toutes les communautés hispaniques, noires, en Amérique du Nord. Ça a été un mouvement exceptionnel. L'OMC a été mis en échec. Ce que les gens ne savent pas trop, c'est que lorsqu'on garde un petit peu les conditions d'émergence de cette manifestation de Seattle, qui est l'acte de naissance du mouvement altermondialiste, qui on trouve derrière ? Un groupe de femmes, quelques milliers, qui se réclament de la sorcellerie. Ce sont les sorcières de Seattle. La principale figure de ce mouvement de sorcellerie, c'est une femme qui se dit sorcière, elle et tout son mouvement, elle s'appelle Starwalk. Starwalk, cette sorcière, a l'intuition que la convergence des mouvements sociaux alternatifs est la condition de la réussite. Pour une raison simple, c'est qu'elle a l'intuition que la mondialisation est un phénomène global, multidimensionnel, comme l'est le capitalisme. Donc, si l'adversaire il est global et multidimensionnel, la résistance doit être globale et multidimensionnelle, et l'alternative elle-même doit être globale et multidimensionnelle. Et on ne doit pas faire, comme le pense la vieille gauche ouvrière, on ne doit pas faire de l'économie et de l'entreprise le seul lieu de la résistance. Parce que le capitalisme et la mondialisation néolibérale polluent tous les lieux de l'existence. C'est cette marchandisation de la totalité des sphères d'existence qui fait que la résistance, l'alternative, elle-même doit être multidimensionnelle. Et Starwalk considère que tous les mouvements qui sont animés par le bien commun, quel que soit le domaine ou le terrain dans lequel ils sont, doivent converger pour résister à la mondialisation néolibérale. Le mouvement des sans-terres au Brésil avec la théologie de la libération, et puis donc ce qu'on appelle la commission pastorale de la terre, les sorcières aux États-Unis avec Seattle, mais d'autres exemples en Inde. Ekta Parishad, c'est le mouvement des sans-terres en Inde, très proche d'ailleurs du mouvement des Adivasi. Voilà. On ne comprendra rien à la militance éco-paysanne d'Ekta Parishad si vous enlevez cette articulation entre d'une part la non-violence et d'autre part la spiritualité indienne. C'est un mouvement qui se réclame de l'héritage gandhien. Autre exemple, toujours en Inde, une femme d'ailleurs à la fois proche d'Ektaparishad et proche des Adivasi, Vandana Shiva. Est-ce qu'on connaît la dimension mystique et spirituelle de Vandana Shiva ? Au nord, non, pas grand-chose. Est-ce qu'on sait que Vandana Shiva, elle le dit elle-même, lorsqu'on l'écoute sur ce terrain-là, elle dit, mais toute son écologie vient de ce qu'on appelle en Inde la bhakti et la shakti, c'est-à-dire le féminin sacré. Ça ne fait pas sens en Occident avec le désenchantement. C'est pour ça que la communication interculturelle nord-sud suppose au nord de désapprendre aussi le désenchantement pour être capable de reconnaître le sens de la parole des autres. Bon, formellement, je suis philosophe. Donc, pendant quelques minutes, si vous me permettez, je vais prendre la casquette du philosophe. Bon, il était une fois la philosophie, donc il faut revenir à 2500 ans, 3000 ans même, les Grecs nous ont offert une clé d'analyse exceptionnelle pour comprendre le monde de la pensée, de l'intellectualité. Cette clé d'analyse, elle concerne le langage, qui est le principal mode qui permet aux humains de nouer des liens avec l'autre et d'habiter la Terre. Ce n'est pas le seul mode, il y a aussi le corps physique. La vie sensorielle est aussi une façon pour les humains d'habiter le monde. Mais ce n'est pas propre à l'humain parce que la vie sensorielle, ben, on la partage avec le monde animal par exemple. Le propre de l'humain, c'est le langage. Cette leçon des Grecs, c'est de nous avoir dit que toutes les œuvres littéraires, tous les livres, toutes les paroles prononcées, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, donc ça fait quand même pas mal, hein, donc tout ce qui relève du langage peut être regroupé dans deux grandes familles langagières. La leçon des Grecs, c'est de nous dire que ces deux familles, dont je vais vous dire de quoi elles sont faites, ces deux familles entretiennent entre eux des rapports d'égalité, des rapports de complémentarité et aussi de vérité. Tous les deux disent la vérité. Alors, dans la première famille langagière, on a des œuvres comme, par exemple, les éléments de géométrie d'Euclide, ou un traité de mécanique quantique, ou de cosmologie, ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou le procès-verbal d'une assemblée générale quelconque, article 1, article 2, article 3. En fait, le maître mot grec qui préside à cette famille langagière, c'est la famille du Logos, où on a dedans, effectivement, des œuvres juridiques, scientifiques, rationnelles, qui visent à l'objectivité, qui édictent également la règle, la loi, que ce soit la loi sur le terrain du droit, mais aussi les lois de la science, ou les lois mathématiques. La matière première de cette famille, ce sont les concepts, juridiques ou bien scientifiques. La deuxième famille langagière, c'est facile. Vous avez dedans les mille et une nuits si vous êtes dans la tradition arabe. Vous avez le Mahabharata si vous êtes plutôt du côté du Kerala. Pour revenir chez nos Grecs, vous avez l'Iliade et l'Odyssée. Et puis, je ne sais pas, vous avez Dante avec sa comédie. Et puis, bien sûr, tous les contes populaires du terroir. Puis la quête du Graal, quand même, ça compte en Europe au Moyen-Âge. En fait, le mot grec qui préside à cette deuxième famille, c'est le mot de mythos. Logos, mythos, raison et imaginaire. Les deux disent la vérité, selon leur mode propre. Les deux sont égalitaires et les deux sont complémentaires. On peut même dire, on peut même poser une hypothèse qu'une personne, qu'une société, qu'une civilisation est en état de santé lorsqu'il y a un équilibre dynamique entre ces deux polarités. Et on peut imaginer qu'il y a des pathologies lorsque l'un des deux pôles prend toute la place. La matière première des œuvres du Logos, c'est le concept. La matière première des œuvres du Mythos, ce sont les images. Figures, symboles, signes, tout ce que l'on veut. Il se trouve que depuis 500 ans, le monde occidental et à sa suite le reste du monde, avec la colonisation et la néocolonisation et l'impérialisme et toute une série de phénomènes dont je vais parler après, en tout cas pour l'Europe depuis 500 ans, l'un des deux pôles a pris tous les pouvoirs. C'est le fameux Logos. Il prend tous les pouvoirs avec notamment la révolution cartésienne, galiléenne et newtonienne, et au-delà même de l'aspect scientifique, avec l'émergence de ce qu'on appelle le capitalisme. Et contrairement à certains discours de la gauche pendant un siècle et demi, le capitalisme ne se réduit pas à un système économique ou à un mode de production économique. Le capitalisme, c'est un système global. Le capitalisme, il y a 500 ans, en gros, au XVIIe siècle. Alors, les historiens du capitalisme ont souvent, jusqu'à maintenant, ont essayé de s'interroger pour essayer de voir qu'est-ce qui a fait que le capitalisme est né là, à ce moment précis. Donc, on a toute une série d'auteurs, Marx, Max Weber, dont j'ai parlé, etc., etc. Alors, certains vont mettre l'accent sur l'aspect scientifique. Descartes, Galilée, Newton, la révolution scientifique. D'autres vont mettre l'accent sur l'autonomisation des villes par rapport aux campagnes. C'est la même époque. Et donc, par voie de conséquence, l'autonomisation de la classe sociale des villes, la bourgeoisie, par rapport aux classes des campagnes, la noblesse et la paysannerie. D'autres vont mettre l'accent sur les découvertes, l'imprimerie par exemple. D'autres vont mettre l'accent sur le changement dans les routes commerciales internationales. Donc on a une multitude. Alors bien évidemment, c'est la conjonction de tous ces paramètres qui fait le capitalisme. Personne n'a le droit moral de dire c'est ce paramètre-là qui compte plus que les autres. C'est vraiment la convergence ou la confluence. Personnellement, et par rapport au thème de l'écologie et du lien avec la spiritualité, l'événement qui me semble essentiel pour comprendre le capitalisme, sa nature profonde, et qui permet d'envisager les rapports nord-sud par rapport à la spiritualité, c'est un événement qui a duré quelques dizaines d'années à peine, donc c'est un laps de temps très court, entre 1550 et 1650. C'est un massacre collectif en Occident. Unique au monde, un massacre collectif où on a tué jusqu'à 100 000 personnes minimum. C'est le massacre des sorcières. Le massacre des sorcières peut être envisagé comme un acte de naissance symbolique du capitalisme. Notamment, pas uniquement, mais notamment du point de vue de l'écologie, pour une raison simple, c'est que nos fameuses sorcières dans les campagnes, parce que c'était essentiellement des femmes dans les campagnes, eh bien dans les campagnes, elles étaient les gardiennes de la biodiversité. Le mot n'existait pas à l'époque, bien évidemment. On les appelait parfois les physiciennes. Alors pas au sens où elles connaissaient la mécanique quantique et la vie des atomes. On les appelait les physiciennes parce qu'en grec, physis, c'est la nature. On dirait en bon français qu'elles étaient les naturalistes. Elles connaissaient le minéral, le végétal et l'animal. C'était les guérisseuses. L'une des sources de ce grand mouvement de sorcellerie du XVIe et du XVIIe siècle, ça a été un grand mouvement européen au Moyen-Âge, antérieur de 300 ans, qui a été le mouvement des Béguines. Le mouvement béguinal a été précurseur d'une féminité écologique, spirituelle, de rébellion face à un ordre établi. Et la répression ecclésiale qui va s'abattre sur les béguines à partir du XIVe siècle, va contraindre une grande partie des béguines à quitter les villes dans lesquelles elles étaient pour aller dans les campagnes. Ces femmes-là savaient la nature. Elles transmettaient des savoirs. Mais ces savoirs n'étaient pas transmis sur les modes de la rationalité scientifique. Ils n'étaient pas transmis sur le mode du logos. Quand vous étudiez, moi je l'ai fait pendant un petit temps, lorsque vous explorez les procès-verbaux de l'Inquisition, c'est-à-dire lorsque vous étudiez les argumentaires qui ont mis à mort ces femmes, soit par le feu, soit par la noyade, hein, c'était les deux modes d'assassinat collectif, on s'aperçoit qu'il y a eu convergence de deux argumentaires plutôt, assez différents. vous avez un premier argumentaire de type religieux, ecclésial, évident. Ces femmes, dans les campagnes, eh bien, elles sont dans l'hérésie. Elles ne sont pas dans la norme de l'Église. Elles sont dans l'hérésie, elles sont hérétiques, notamment parce que, bah, voilà, le sabbat, les démons, les relations amoureuses qu'elles ont avec les démons, bref, la sorcière, c'est la putain du diable. Et là, on a tous les fantasmes du patriarcat qui transpire dans ce type d'argument. S'il n'y avait eu que ça, on n'aurait pas atteint l'intensité dramatique de ces dizaines de milliers de femmes assassinées. Il a fallu la collusion avec un autre type d'argument, donc un autre groupe social. Ce massacre des sorcières, ce n'est pas le Moyen-Âge. Ce n'est pas le soi-disant obscurantisme du Moyen-Âge. Ce massacre des sorcières, c'est la raison, la modernité, le capitalisme qui, dans ses fondements au XVIIe siècle, pense ce massacre. Et notamment des médecins rationalistes des villes qui vont dénoncer les sorcières, non pas avec un argument de type religieux, puisque pour eux ça n'a pas de sens, mais pour un argument qui est celui que ces femmes, dans les campagnes, elles colportent des superstitions. C'est-à-dire que leurs savoirs sont de faux savoirs. C'est pas dit. Les vrais savoirs, les seuls vrais savoirs, sont les savoirs masculins, urbains, académiques, que les scientifiques au XVIIe siècle vont privilégier. Les savoir-faire, surtout dit sur le mode du mythos et pas sur le mode du logos, ne sont pas de vrais savoirs. Le capitalisme, notamment avec cette révolution scientifique, jusqu'à aujourd'hui, a considérablement augmenté la masse de connaissances sur le monde. C'est incontestable qu'avec Galilée, Descartes, Newton, jusqu'à aujourd'hui, la science moderne a considérablement augmenté la masse de connaissances sur le monde. Dans le même laps de temps, on a perdu une masse effarante de connaissances sur le même monde, notamment des connaissances paysannes, rurales, ce que les sociologues appellent les savoirs de gens de peu, ou bien les peuples du Sud, quand vous avez eu les conquêtes coloniales en Afrique, en Amérique et en Asie. La culture, les cultures des peuples du monde ont été méprisées, notamment lorsque ces cultures portaient des savoir-faire ruraux, des savoir-faire, c'était pas les mots, des savoirs d'agroécologie, des savoirs d'éducation à l'environnement, c'était pas les mots, mais les enseignements et les pratiques étaient les mêmes. Parce qu'avec l'émergence du capitalisme, le logos est le seul lieu de sens, de vérité. Tout ce qui relève du mythos n'a pas droit de cité dans l'ordre du sens et de la vérité. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que l'imaginaire va disparaître des sociétés modernes. Il va être intégré jusqu'en 2015 sur un mode dont on a tous entendu parler, parce que beaucoup sont addicts de ce mode-là, c'est le divertissement. La société marchande, qui considère que le logos est le lieu du sens, accepte totalement l'imaginaire sur le mode du divertissement, comme une sorte de soupape psychique pour empêcher que la cocotte explose. L'imaginaire n'est plus considéré comme un lieu de sens, mais comme un espace de divertissement. Mais ce n'est pas le lieu du sens et de la vérité. Je vous ai parlé de l'Inde tout à l'heure, à propos de Vandana Shiva et des Adivasi. En Inde, dans les années 1950, vous avez eu une terrible crise alimentaire. Une famine énorme après l'indépendance de l'Inde en 1948. Il fallait absolument trouver une solution, et on a, dans les années 60, trouvé la solution. Pour régler le drame alimentaire en Inde, on a organisé une révolution qu'on a appelée la révolution verte. En fait, on devrait l'appeler la révolution anti-verte. Parce que, à coup d'intrants, de pesticides, etc., etc., on a bousillé les écosystèmes indiens, on a augmenté les taux de productivité du blé et du riz, donc on a en grande partie, et heureusement, réglé la question alimentaire, mais le prix écologique a été effroyable. Les rivières étaient polluées. À côté de l'Inde, vous avez un petit pays qui s'appelle le Bangladesh. Ce pays, c'est un immense delta. Une partie des fleuves de l'Inde, qui prennent leur source en Himalaya et qui vont dans l'océan Indien, traversent l'Inde comme le Gange et vont dans l'océan Indien en traversant le Bangladesh. À la fin des années 60 et au début des années 70, des organisations de santé internationale comme l'UNICEF ont été alarmées à la lecture de rapports qui venaient du Bangladesh, rapports selon lesquels des milliers d'enfants souffraient parce qu'ils avaient consommé, enfin bu, ce qu'on appelle les eaux de surface, donc les eaux de rivières polluées. Et là, vous avez tout l'humanitarisme occidental qui se mobilise. Ah, il faut aider les petits-enfants du Bangladesh qui souffrent de leurs eaux polluées. On a trouvé la solution. Si les eaux de surface sont polluées, on va forer des puits. Comme cet humanitarisme occidental se veut démocratique, on va demander l'avis aux populations. Et tout au long des années 70, on a des fonctionnaires internationaux qui vont aller dans les villages reculés du Bangladesh pour demander l'avis aux populations. Qu'est-ce que vous pensez du projet de forage de puits ? Et là, la parole populaire massive dans les campagnes, essentiellement portée par les femmes, qui sont interrogées, c'est de dire, je traduis d'un patois bengal en français moderne, mais c'est la vraie formule, donc j'ouvre les guillemets, on ne veut pas boire l'eau des trous, c'est l'eau du diable. Fermez les guillemets. Et là, vous avez les fonctionnaires internationaux qui sont déshabitués de ce langage, ils ne comprennent pas trop. Et donc, ils vont regarder dans la nomenclature des concepts en vigueur pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que « eau du diable ». Donc, vous avez plan d'ajustement structurel, développement durable, aménagement du territoire, coopération décentralisée. Il n'y a pas « eau du diable », il n'y a pas « diable » non plus. Bref, ça ne veut pas dire grand-chose. Bref, on va demander à la Banque mondiale de financer le forage des puits. Et jusqu'aux années 2000, on a foré au Bangladesh entre de 4 à 10 millions de puits. Et dans les années 2000, à partir notamment de 2002-2003, l'Organisation mondiale de la santé à Genève et à New York est alarmée par des rapports qui viennent de médecins du Bangladesh. Et là, on a des centaines de milliers de personnes qui sont en état de souffrance, des dizaines de milliers de morts. En fait, on a oublié, lorsqu'on a foré les puits au Bangladesh, on a oublié de faire une étude épidémiologique. En fait, là, le Bangladesh est un pays qui repose sur la plus grande nappe d'arsenic naturel au monde. Les populations savaient la nocivité de l'eau des trous. Elles ont dit, ces populations, notamment ces femmes, elles ont dit cette vérité, c'est-à-dire la nocivité de l'eau, non pas sur le mode du logos, mais sur le mode du méthos, en parlant de l'eau du diable. Exactement comme nos sorcières, il y a 500 ans, parlaient des esprits de la nature dans les campagnes. Ils nous parlaient des gnomes, des elfes, des lutins, des djinns, des devas, des korrigans et des trolls et uns. Eh bien, on a nos femmes au Bangladesh qui nous parlent de l'eau du diable. On est dans le même registre d'une vérité qui se dit sur le mode du symbole et de l'image. Les fonctionnaires internationaux, étant eux-mêmes mono, pas bilingues, mais parlant que la langue du logos, ont méprisé ce langage qui nous vient du mythos et de l'imaginaire. Si ces femmes-là avaient dit aux fonctionnaires internationaux, « Écoutez, monsieur le fonctionnaire international, vous connaissez le tableau périodique des éléments du chimiste Mendeleïev ? Vous avez dedans l'élément arsenic. Ah oui, et là, on peut imaginer, ce qui n'est même pas sûr, qui est une prise de conscience. Voilà. Ces pauvres femmes ont dit la vérité sur le mode du mythos. Bien sûr, la Banque mondiale a fait un communiqué de presse, je crois que c'était en 2003, en disant « Nous allons aider le Bangladesh à régler son problème. » Et l'OMS estime, c'est toujours des projections, donc estime qu'il faut attendre à peu près 40 ans pour que l'accumulation de l'arsenic dans les tissus du corps génère toute une série de pathologies mortelles, donc soit des cancers, soit, enfin bref, je vous fais le, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, on estime à, entre 2020 et 2030 le pic de l'hécatombe. Donc, le pic de l'hécatombe, donc 2020-2030, on estime donc c'est toujours des fourchettes, hein, de nombre de morts. Donc, le chiffre inférieur, c'est le chiffre sûr. 25 millions de personnes. 75 millions de personnes pour le chiffre haut. De morts programmées à cause de ce qui est certainement le plus grand scandale sanitaire du siècle. Si vous allez sur Internet et vous tapez arsenic Bangladesh, vous allez avoir toute une littérature là-dessus, essentiellement en langue anglaise, parce qu'en langue française, il n'y a quasiment rien eu. Il y a eu un article à l'époque dans Le Monde, un dans Libération, un dans le courrier de l'UNESCO, et c'est tout. C'est l'un des plus grands scandales du siècle. Du massacre des sorcières, il y a 500 ans, jusqu'à ce massacre au Bangladesh, on a 500 ans de répression du mythos, de l'imaginaire, et notamment de ces spiritualités actives dans les communautés paysannes, notamment portées par des femmes. Vous avez une militante indienne qui est certainement l'écrivaine indienne la plus connue aujourd'hui, qui s'appelle Arundhati Roy. Donc elle a une œuvre importante, elle est très connue en Inde et dans le monde entier, Arundhati Roy. Elle a écrit un ouvrage qui n'a pas été traduit en français. Le livre s'appelle, pour parler de la mondialisation, le titre s'appelle « La fin de l'imagination ». À l'époque de la mondialisation, l'imagination, c'est la fonction utopique, l'imagination est une fonction psychique qui se raréfie de plus en plus dans l'espèce humaine. Vous avez une autre militante écologiste, un petit peu sorcière aussi, il suffit même de la voir physiquement, c'est l'ancienne ministre de la Culture du Mali, là on passe de l'Inde à l'Afrique, qui s'appelle Aminata Traoré, qui est l'une des principales figures en Afrique de la résistance à la mondialisation néolibérale. Elle a écrit un ouvrage qui est paru dans les années 2000, qui est sorti en livre de poche, donc c'est assez accessible, un livre de critique fraternelle à l'égard des mouvements intermondialistes du Nord. Fraternelle parce qu'elle leur dit, écoutez, on est dans le même camp face à l'OMC, mais vous, au Nord, vous avez réduit l'OMC, enfin, vous avez réduit la mondialisation à une histoire de flux financiers mal contrôlés. Et il faut reprendre le contrôle des flux financiers en leur mettant une petite taxe de 0,5%, hein, la fameuse taxe Tobin, pour régler la question de la mondialisation néolibérale. Cette femme-là, Aminata Traoré, elle dit que dans la mondialisation, il y a ça. Mais il y a aussi une standardisation des cultures, une occidentalisation du monde. Son livre s'appelle « Le viol de l'imaginaire ». Eh bien, quand Aminata Traoré écrit « Le viol de l'imaginaire », quand Arundhati Roy écrit « La fin de l'imagination », on est dans l'histoire du désenchantement du monde, depuis le massacre des sorcières, jusqu'à cette occidentalisation du monde qui tend à généraliser à la planète les normes du logos, générant en réaction des pathologies du mythos. Et les fondamentalismes religieux, ethniques ou linguistiques, ce ne sont pas autre chose que des pathologies d'un logos qui vont résister de façon folle à l'imposition du logos. Le, pas si ce nom, Serge Latouche, vous dit quelque chose. Donc c'est l'une des figures de l'écologie francophone, c'est le principal théoricien de la décroissance. Donc c'est l'un des grands économistes français, notamment sur les rapports Nord-Sud. Et dans les années 80, il a écrit un livre qui s'appelle « L'occidentalisation du monde ». Et dans ce livre, il raconte une anecdote. Il est à Alger, en 82, je crois, 20h30 du soir, il est avec des amis sociologues algériens, donc dans les rues d'Alger, et il n'y a personne. Alors Serge Latouche, il demande à ses potes, mais ils sont où tous les jeunes ? Avec tous les discours sur la démographie, la jeunesse, dans les villes du tiers-monde, et il n'y avait personne à 8h30 le soir. Et ses copains sociologues ne voulaient pas dire la vérité. Alors qu'est-ce qui se passe en France avec Mitterrand, tout ça ? Non, il revenait toujours sur sa question, mais où est la jeunesse algéroise? Mais il aurait pu dire la même chose de la jeunesse de Constantine ou d'Oran. Puis à un moment donné, ils sont un petit peu malheureux et ils répondent, vous savez quoi? Donc c'était 8h30, c'est l'heure de Dallas. Bon, c'est dans ce livre qui s'appelle L'Occidentalisation du monde. 10 ans après, vous avez une déferlante fondamentaliste en Algérie et une guerre civile qui va faire 200 000 morts dans toutes les années 90. Il n'y a pas deux peuples en Algérie, il n'y a pas deux jeunesses. Il n'y a pas une jeunesse occidentalisée d'Alas et puis une jeunesse folle furieuse. C'est la même jeunesse. L'aliénation, à travers la standardisation des imaginaires, à travers l'occidentalisation des cultures du monde, l'aliénation génère des pathologies. Comme dirait Papa Freud, vous avez un refoulé et puis vous avez donc un retour du refoulé. C'est ce qu'une militante altermondialiste états-unienne que j'aime bien, Suzanne George, elle appelait ça, elle, l'effet boomerang. L'Occident reçoit aujourd'hui en pleine figure les crises nord-sud qu'elle a générées depuis 500 ans, depuis la conquête en 1492 de l'Amérique indienne. Une sorte d'effet boomerang. Malheureusement, y compris même dans les secteurs de l'écologie, on a du mal à penser de façon systémique les tissages, les relations entre des phénomènes écologiques, culturels, etc., etc. Alors, en disant ça, il ne s'agit absolument pas de jouer le Sud contre le Nord. Je ne suis absolument pas... Je suis algérien, mais je parle pour n'importe quelle, entre guillemets, société du Sud, du Congo, ou du Mali, ou du Bangladesh. Ce qui me gêne, ce n'est pas l'occidentalisation du monde. Ce qui me gêne, c'est que l'Occident projette au Nord, non pas la culture occidentale, mais le moins intéressant de la culture occidentale. C'est-à-dire la culture publicitaire, télévisuelle, cinématographique. Moi, j'adorerais que les bibliothèques en Algérie soient envahies par les œuvres complètes de Goethe, et puis tous les contes de Grimm et d'Andersen et d'Hoffmann. Moi, j'adorerais. Je voudrais que les maisons d'édition belges et parisiennes et allemandes nous envoient toutes ces œuvres de qualité. Mais c'est pas, l'Europe ne transmet pas au Sud le meilleur de ce qu'elle a produit. Elle transmet au Sud le pire de ce qu'elle a produit. Résultat, au Sud, comment est-ce qu'on envisage le Nord comme étant un système militairement impérialiste, écologiquement catastrophique, socialement injuste? Et là, vous avez nos pathologies de l'imaginaire qui se développent à travers une multitude de phénomènes en Afrique, dans le monde arabe, en Asie ou bien en Amérique du Sud. C'est pour ça que autour de l'écologie et de ce lien entre écologie et spiritualité, il y a moyen précisément à ce qu'il y ait des convergences nord-sud. Mais ça suppose pour l'écologie au nord, pas de devenir spirituel, les gens font ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de poser un nouveau cadre pour dépasser un ancien cadre. Il s'agit simplement de se poser la question, et moi je la formule comme ça, cette question. Est-ce qu'on peut métamorphoser le monde? Est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on peut faire la révolution? Alors de façon écologique, on va dire maintenant, c'est un mot à la mode depuis 2006, est-ce qu'on peut transiter? Pas si vous entendez le mot transition, pas de transition écologique, transition sociale. Est-ce qu'on peut transiter, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut se projeter sur le futur? C'est ça la révolution, la métamorphose et la transition. Est-ce qu'on peut transiter sur fond d'amnésie? La réponse pour moi est évidente, non. On ne peut pas transformer le monde sur fond d'amnésie. C'est pour ça précisément que la modernité marchande, à travers ces industries du divertissement, ne souhaite pas que les sociétés au nord et au sud soient capables de mémoire, soient capables de se remémorer. Parce que c'est par la mémoire et par la remémoration qu'on peut donner une profondeur culturelle, éthique et philosophique à des alternatives pour le futur. Si on ne donne pas une profondeur culturelle à des alternatives futures, eh bien on se projette dans le futur au nom de l'urgence sociale, écologique et humanitaire. Sans mémoire, résultat, ces alternatives sont pauvres. Plus que ça, elles ne parlent pas à l'immense majorité du corps social. Qui a besoin d'être rassuré dans ces référents culturels? Et comme les porteurs d'alternatives ne font pas ce travail de remémoration en vue du bien commun et de l'émancipation, résultat, qui au Nord monopolise la mémoire, la culture? Ce sont les mouvements fondamentalistes de droite au Nord. Ce sont les extrêmes droites, si vous voulez, dans le monde occidental, qui, eux, vont monopoliser la problématique de la mémoire contre le reste du monde, d'ailleurs, contre l'étranger. Et on a nos courants écologistes, humanistes, sociaux, démocratiques, qui, au nom de l'humanisme, évacuent la mémoire. Et l'un des enjeux pour les porteurs d'alternatives, c'est de retrouver la mémoire. Et dans cette remémoration, dans ce travail de mémoire, eh bien, on va découvrir la symbolique, on va découvrir l'imaginaire, on va découvrir la spiritualité. Il ne s'agit pas soi-même de devenir spirituel ou poète ou religieux. Il s'agit simplement de donner à l'écologie une profondeur culturelle. Et c'est en donnant à l'écologie une profondeur culturelle que cette écologie au Nord pourra se détacher d'une écologie désenchantée, qui a du mal à dialoguer avec les écologies du Sud. Je me tais. Merci.
Vous venez d'écouter Mohamed Taleb lors de la conférence « L'écologie entre politique et spiritualité » qui s'est tenue le vendredi 9 octobre 2015 à l'ULB.